Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Antoine Drouard, je suis chercheur en physique nucléaire au département de physique nucléaire du commissariat à l'énergie atomique. Donc il y a plein de atomique, nucléaire et tout. Je fais de la physique fondamentale, essentiellement de la physique expérimentale, mais ici on va faire de la physique théorique expérimentale puisqu'on va essayer de s'amuser un peu avec les lois de l'univers, plus exactement les constantes fondamentales de l'univers, voir un peu comment elles interviennent, qu'est-ce qui se passe si on les change. Et enfin, on réfléchira un peu aux conséquences un peu philosophiques de l'existence de ces constantes. Donc, dans ma présentation, il y aura 4 parties, hein, grosso modo. Vous voyez que j'ai collé à fond au thème du festival. Donc, dans une première étape, on présentera un peu les fondations de la physique moderne. Je vous présenterai un peu les grands modèles qu'on utilise aujourd'hui, très rapidement, aussi de l'image qu'on a de l'univers connu. Et à travers ces grands modèles, on parlera des constantes, des paramètres qui sont utilisés pour définir ces modèles et décrire la réalité telle qu'on la voit aujourd'hui à travers ces modèles de physique. Et ensuite, une fois qu'on aura balayé un peu ça, je prendrai un exemple particulier. Comme je suis physicien nucléaire, j'aime beaucoup les protons, les neutrons et les électrons qui vont avec. Donc on jouera un peu justement avec les masses de ces particules, beaucoup avec la masse de l'électron. Et donc, en faisant varier la masse de cet électron, voir un peu ce que ça peut changer sur les lois de la physique nucléaire, les comportements des protons et des neutrons, et sur ce qu'on pourrait observer si jamais la masse de cet électron était différente. Et enfin, dans la dernière partie, je reviendrai sur les constantes fondamentales, où là, on réfléchira sur justement qu'est-ce qui fait que les constantes fondamentales sont ce qu'elles sont quels impacts leur changement pourrait avoir sur la vie telle que nous la connaissons. Donc, première partie, fondation. Donc, où en est-on aujourd'hui du contenu de l'univers ? Aujourd'hui, en fait, l'univers, c'est à 70% d'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est, 25% de matière noire, on ne sait pas ce que c'est. Donc là, on est au moment très gênant où on s'aperçoit qu'on ne sait pas qualifier 95% du contenu de l'univers. Bon, c'est pas grave. Hier, c'était d'ailleurs la journée de la matière noire. Et il y a une excellente table ronde sur les études qui sont menées aujourd'hui sur cette matière noire, son origine. Est-ce que d'ailleurs, c'est vraiment de la matière noire ou en fait, ça vient de l'incompréhension des lois de l'univers ? Ensuite, on passe, là c'est un peu plus rassurant, l'hydrogène et l'hélium interstellaires. Donc on commence à attaquer le domaine des noyaux et des atomes les plus légers. Hein, l'hydrogène, c'est le noyau le plus léger qui existe dans l'univers. Un seul proton, et en gros, c'est 98% des atomes de l'univers sont des atomes d'hydrogène. Et ensuite, l'hélium, juste au-dessus, hein, 2 protons et 4 neutrons, 2 neutrons en général. Les étoiles, donc 0,5%, là toujours, on est toujours dans de la matière ordinaire, donc c'est toujours des protons avec aussi éventuellement des électrons. Et au sein des étoiles, la formation des éléments les plus lourds, de cet hydrogène qu'on a au départ, et jusqu'aux éléments. Alors l'élément le plus stable, le plus lourd qui existe, c'est le plomb. Et ensuite, vous avez création d'autres éléments encore plus lourds, par exemple l'uranium. Donc le plomb, c'est 82 protons, hein. Donc c'est l'élément stable le plus lourd. Et vous avez l'uranium à 92 protons, qui lui n'est pas stable. Il a un temps de vie de 4,5 milliards d'années, donc c'est quand même assez long. Mais c'est pour ça justement qu'il en reste encore sur Terre, puisqu'il a été créé au moment d'une très ancienne supernova qui a donné ensuite naissance au nuage moléculaire qui a formé le système solaire. Mais c'est pour ça qu'on a encore de l'uranium aujourd'hui, même s'il est instable. Nous avons aussi une toute petite partie qui sont des particules très exotiques qu'on appelle les neutrinos. Alors ça, on sait à peu près ce que c'est, mais on a de gros, gros problèmes avec les neutrinos. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le modèle standard de la physique subatomique ne prévoit pas que les neutrinos aient une masse. Malheureusement, ils en ont une. Ou heureusement, parce que ça fait des nouveaux trucs à découvrir, justement. Et l'autre problème avec les neutrinos, c'est qu'il n'y en a jamais assez. En fait, on a les premières observations qu'on avait faites des neutrinos qui venaient du Soleil ont montré qu'on détectait moins de neutrinos que ce qui était prévu, malheureusement. Donc, on a cherché, on a creusé, on s'est rendu compte qu'en fait, les neutrinos qu'on détectait n'étaient pas tous les neutrinos qui étaient émis. On y reviendra légèrement dessus plus tard. Et là, on a un deuxième problème avec les neutrinos des réacteurs nucléaires. Normalement, on est capable d'observer aujourd'hui les neutrinos émis dans les réactions nucléaires qui sont faites dans la fission de l'uranium et dans la désintégration des produits de fission. Aujourd'hui, on a aussi un déficit des neutrinos observés par rapport à nos modèles de réacteurs. Donc ça, les neutrinos sont vraiment des particules qui sont à la pointe de la physique aujourd'hui. Et nous avons enfin les atomes lourds, qui est l'essentiel de la matière qui nous entoure. Donc carbone, oxygène, fer, comme je vous le disais, jusqu'au plomb qui est stable. Donc là, c'est seulement 0,03% du contenu de l'univers. Et pourtant, c'est quasiment l'écrasante majorité de la matière qui nous entoure. Donc on voit que la Terre est une concentration particulièrement impressionnante de ces éléments lourds à un endroit qui permet la vie, justement. Et les théories physiques qui organisent tout ce contenu de l'univers, il y a deux grands modèles principaux. Il y a le modèle qu'on appelle lambda matière noire froide, donc qui décrit en fait l'univers, son évolution de l'univers, donc ça inclut le Big Bang, la phase d'inflation, je reviendrai rapidement après dessus, aux échelles cosmologiques. Donc on regarde vraiment les très grandes échelles de distance, les distances intergalactiques, inter-amas de galaxies, qui sont décrites par ce modèle. Et rigoureusement incompatible, nous avons pour les échelles subatomiques le modèle standard des particules qui lui va décrire les propriétés des particules élémentaires et leur interaction. Et là aussi, on en parlera plus précisément. Donc effectivement, le modèle cosmologique que vous avez là, donc c'est en gros l'évolution de l'univers depuis la théorie du Big Bang, où l'univers va se dilater et se refroidir avec formation des premiers noyaux, des premiers atomes, avec un temps qui est estimé aujourd'hui à être à peu près 14 milliards d'années. La formation de la Terre datant d'à peu près 4,5 milliards d'années. Alors il y a une constante, justement, alors on va commencer à attaquer les constantes fondamentales de la physique, c'est que dans ce modèle-là, il y a une constante très importante qu'on appelle la constante cosmologique. Alors d'où elle vient ? Historiquement, c'est une constante qui naît spontanément des équations de la relativité générale d'Einstein, qui est la théorie de la gravitation, qui décrit justement la gravitation aux très grandes échelles de l'univers. Et donc cette constante apparaît spontanément, et puis Einstein l'avait mis dans ses équations, et puis il a dit « Ah non, mon Dieu, cette constante, ça ne va pas du tout. » Enfin, il était très, très fâché d'avoir mis une constante cosmologique comme ça. Et très longtemps, on a dit « La constante cosmologique, en fait, elle est nulle, c'est pas important, machin. » Le problème, c'est qu'on s'est aperçu que, alors, on savait depuis Hubble, depuis Georges Lemaître et depuis Hubble, que l'univers était en expansion. Parce qu'on voit les galaxies qui s'éloignent les unes des autres dans tout l'univers. On s'est aperçu plus tard que non seulement elles étaient en expansion, mais qu'en plus cette expansion accélérait. Et ça, c'était complètement impossible sans constante cosmologique. Donc la constante cosmologique est revenue dans les équations de la relativité générale pour prendre en compte cette accélération de l'expansion de l'univers. Et c'est en lien probablement avec l'énergie sombre dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque cette énergie sombre, qui est 70% du contenu de l'univers, c'est de l'énergie, c'est lui qui cause cette accélération de l'expansion de l'univers. Donc ça, c'est un grand modèle qui va décrire la gravitation et l'évolution de l'univers aux grandes échelles. Et nous avons l'autre modèle, qui est le modèle standard de la physique des particules. Alors là, le modèle standard... Attendez, j'ai des perturbations électroniques. Non mais, voilà. C'est bon. Le modèle standard va nous décrire l'ensemble des particules qui forment la matière et l'ensemble des interactions entre ces particules. Donc vous avez en fait ce modèle standard. Alors il est d'une efficacité redoutable. Il prédit des valeurs avec des très grandes précisions. Il a permis de prédire l'existence de particules. Alors notamment le fameux boson de Higgs qui a été prédit par le modèle standard et qui a été découvert ensuite validé au grand accélérateur du CERN. Mais pour faire fonctionner ce modèle standard, il faut tout de même 25 constantes. Paramètres qu'on va soit mesurer ou soit élaborées à partir de considérations théoriques. Donc dans ces constantes, vous allez avoir, par exemple, avoir trois constantes pour les interactions. L'interaction forte, qui est l'interaction nucléaire forte, l'interaction électromagnétique, qui est l'interaction liée au champ magnétique et au champ électrique, et l'interaction faible, qui est une interaction un petit peu exotique, qui va rentrer en compte, qui va jouer dans la radioactivité des noyaux, et c'est celle dont on parlera tout à l'heure. Et à chaque interaction, le modèle standard va associer une particule qu'on appelle un boson vecteur, et on peut imaginer que une interaction entre deux particules, c'est l'échange de ce boson vecteur. Et vous avez en plus, en bonus, le boson de Higgs, qui va donner, lui, qui va interagir avec toutes les autres particules. Alors attendez, en fait, hop, voilà. Déjà, nous avons les leptons. Les leptons sont des particules un peu particulières, qui sont les électrons. Donc là, les électrons, c'est la particule commune, plus deux grands frères, le muon et le tau, qui sont des sortes d'électrons, mais plus lourds, et qui, eux, seront radioactifs, et qui vont se désintégrer spontanément vers l'électron. Et on retrouve ici nos particules très exotiques, les neutrinos. Chaque lepton, électron, muon et tau va être associé à chaque un neutrino, neutrino électronique, neutrino muonique et neutrino tauique. Je parlais tout à l'heure effectivement du boson de Higgs, puisque nous avons en fait toutes les particules massives du modèle standard. Vous avez six quarks, le quark up, down, et plus lourd à chaque fois, le quark charm et strange, le quark top et le quark bottom. Alors la matière standard en fait va être uniquement constituée de quark up et de quark down, plus les électrons. Mais par contre, c'est le boson de Higgs, c'est l'interaction du boson de Higgs entre ces particules et le boson de Higgs qui va donner la masse à toutes ces particules qui sont là vraiment des particules élémentaires dans le cadre du modèle standard de la physique des particules. Donc ces paramètres sont fixés, comme je vous le disais, soit par des mesures expérimentales, soit par des considérations théoriques. Donc en fait, passons maintenant à ces constantes. Donc j'ai commencé à décrire certaines constantes qui étaient vraiment intrinsèquement liées au modèle qu'on utilisait. Mais il y a aussi surtout ce qu'on appelle les constantes universelles, qui sont des constantes qui vont rentrer en jeu dans toute une variété de phénomènes. Donc on va bien sûr avoir la constante de Newton G, qui va décrire la force de l'interaction gravitationnelle, qui elle va rentrer en jeu dans la relativité générale, par exemple. Mais si on prend aussi la théorie de la gravitation de Newton, elle peut être parfaitement valable à certaines approximations. Par exemple, pour décrire mon poids sur cette chaise, je peux utiliser simplement la théorie de la gravitation de Newton. C'est vrai, je ne suis pas obligé de faire entrer en compte des concepts de relativité générale. Une deuxième constante, qui est la constante de Planck, qui, elle, a été introduite par la mécanique quantique et par Max Planck, donc avec les effets dévastateurs qu'on voit ici sur la physique. Donc avant, on avait de la physique classique, déterministe, bien propre, et on est passé brutalement à la mécanique quantique avec une part intrinsèque d'aléatoire, plus échevelée, moins bien coiffée quand même, hein, c'est vrai. Et enfin, il y a la vitesse de la lumière dans le vide, qui est une constante. Alors, fondamentale, dont le statut d'ailleurs a évolué avec le temps, et c'est ce que nous allons voir ensemble. Parce qu'effectivement, les constantes, ces constantes-là, sont plus ou moins fondamentales. Et le physicien Jean-Marc Lévy-Leblon a défini en fait trois niveaux de constantes. La classe A, c'était la constante simple, disons, qui caractérise un phénomène physique. Ça peut être par exemple la masse de l'électron, ça caractérise la masse de l'électron. Voilà. Alors heureusement, grâce au boson de Higgs, on a l'explication de l'origine de cette masse. Par contre, on n'a toujours pas la valeur de cette masse. La masse de l'électron, elle, reste encore une variable fixée qu'on a mesurée. Par exemple, la vitesse de la lumière, au début, en 1676, c'est la première fois, le moment où on s'est aperçu que la lumière avait une vitesse. Au début, c'était juste la vitesse de la lumière, quoi. Mais ensuite, ça a évolué. Puisqu'il y a la classe B des constantes qui caractérise une classe générale de phénomènes. Et avec Maxwell et les équations de Maxwell, on a décrit à la fois la propagation en fait de la lumière, mais en fait la propagation de tous les champs électromagnétiques, que ce soit les ondes radio, les rayons gamma, grâce donc à la théorie de James Maxwell. Donc là, on a eu un upgrade de la constante de classe de constante pour la vitesse de lumière, puisqu'elle est devenue en fait la vitesse de la lumière, enfin la vitesse de toutes les ondes électromagnétiques. Et en fait, on a eu après un super upgrade, donc c'est la classe C universelle, où là, la vitesse de la lumière est devenue en relativité restreinte, non seulement la propagation toujours des phénomènes électromagnétiques, mais en fait, la propagation de la causalité. Plus exactement, en fait, si on applique les principes de la relativité restreinte, on veut maintenir le principe de causalité. C'est-à-dire que si j'ai une cause, elle doit toujours précéder la conséquence, et ça, quel que soit le référentiel de mouvement dans lequel je regarde cette succession cause-conséquence. Et en fait, si on applique ce phénomène-là, on voit que on est obligé d'avoir de nouvelles lois pour passer d'un référentiel à l'autre, et que dans ces référentiels, il y a toujours une vitesse ultime, indépassable et constante, qui est la propagation de la causalité. Et il s'avère qu'en plus, comme les photons n'ont pas de masse, ce sont les particules qui vont se propager le plus vite, et donc la vitesse de la lumière, c'est en fait cette vitesse de propagation de causalité, mais qui est très très fondamentale, puisque associée à un principe très... très basique. Évidemment, quand on passe de vitesse lumière, je n'échappe pas au plaisir de vous montrer ce fabuleux exemple du faucon Millium passant en vitesse lumière. Alors, sachant que c'est une vue assez imagée, puisque ce qu'on verrait plutôt en vrai, ça serait cette espèce de chose-là, donc une espèce de brouillard vaguement nébuleux, puisqu'en fait, toutes les lumières que vous observez vont venir se concentrer dans un cône en face de vous, et en plus, vous allez avoir un décalage vers le bleu de toutes les lumières, mais vous serez d'accord avec moi, c'est quand même vachement moins photogénique. Donc ces constantes, comme je vous le disais, elles peuvent être fixées ou mesurées. Par exemple, la vitesse de la lumière, maintenant on l'a fixée à 299 792,458 km par seconde, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on avait fixé le mètre et on avait fixé la seconde. Maintenant, comme on a fixé la vitesse de la lumière, si on fixe le mètre, on va fixer la seconde et vice-versa. C'est devenu la vitesse de la lumière qui est devenue, on ne mesure plus la vitesse de la lumière, on l'a fixée et c'est d'autres unités qui vont dépendre de cette valeur de la vitesse de la lumière. On va avoir par exemple la constante gravitationnelle dont je parlais tout à l'heure. Donc elle est encore une fois mesurée en mesurant le déplacement des corps célestes avec une incertitude de, comme on le voit, à peu près 5·10⁵. Donc les mesures des constantes fondamentales ne sont pas toujours infiniment précises. Enfin, elles sont infiniment précises quand on les a fixées nous-mêmes. Ce qui est un bon plan pour faire une constante, si vous voulez mon avis. Et enfin, on a la constante cosmologique, donc qui, elle, est un cas un peu particulier. Donc, on l'observe à l'échelle de l'univers, comme je vous disais, l'accélération de l'expansion de l'univers, et on mesure quelque chose qui est dans une unité exotique de 10⁻⁴7. Et on se dit, cette constante cosmologique, c'est probablement, en fait, l'énergie du vide. Et donc, on a une théorie qui est géniale pour calculer l'énergie du vide, c'est justement le modèle standard de la physique théorique. Donc on calcule l'énergie du vide avec le modèle standard et on obtient le chiffre de 10⁻⁶. Donc là, il y a quand même une légère incompatibilité de à peu près 120 ordres de grandeur. Somme toute, ce n'est pas si grave que ça. Mais par contre, c'est la preuve, c'est l'exemple éclatant que aujourd'hui, la relativité générale est quand même largement incompatible avec la théorie du modèle standard et la mécanique quantique. Donc, c'est des constantes aussi qu'on va vouloir constantes dans le temps, de préférence. Et pour ça, donc, on va avoir plusieurs moyens pour les mesurer quand elles sont mesurables. Par exemple, les horloges atomiques. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des horloges atomiques qui ont des stabilités relatives meilleures que 10⁻⁶. C'est-à-dire qu'elles vont évoluer de 0, les deux horloges synchronisées vont évoluer l'une par rapport à l'autre de 0,04 secondes sur l'âge de l'univers. Donc avec ça, on est capable de faire des mesures extrêmement précises d'évolution de certaines constantes. On va pouvoir mesurer, en remontant un peu plus dans le temps, justement, voir, parce que là, avec les horloges atomiques, on mesure l'évolution sur des temps courts, sur des temps très longs, en remontant dans le passé. Il y a 2 milliards d'années, il y avait un réacteur nucléaire naturel sur Terre, qui était en Afrique, à Oklo. Et en fait, on peut observer ces réactions nucléaires naturelles qui avaient lieu il y a 2 milliards d'années. Et on s'aperçoit que... Apparemment, en regardant en fait la distribution des noyaux qui sont créés lors de ces réactions nucléaires, on voit que c'est les mêmes que celles qui sont créées dans les réactions nucléaires aujourd'hui. Donc ça nous permet d'avoir des contraintes, par exemple, sur l'interaction forte ou l'interaction électromagnétique. Et encore plus loin, on peut observer ce qui s'est passé dans les météorites du système solaire primordial. Donc, encore une fois, en comparant certaines compositions de certains éléments chimiques, de certains noyaux, on peut confirmer que les contraintes, encore une fois, avec des contraintes sur l'interaction nucléaire et sur l'interaction électromagnétique, qu'elles n'ont pas trop changé avec le temps, au moins dans les 4 dernières milliards d'années. Et en fait, on peut ensuite remonter encore plus loin. Donc, par exemple, à quelques milliards d'années, on va observer là des objets très lointains. Donc, comme ils sont très lointains, la lumière a mis très longtemps pour nous parvenir. Et donc, leurs spectres atomiques, par exemple, sont des spectres atomiques qui sont caractéristiques du moment où ils ont été émis. Et donc, en regardant les spectres d'absorption des quasars, on peut vérifier que les transitions atomiques au moment où elles ont été émises dans les quasars sont les mêmes que les transitions atomiques qu'on observe aujourd'hui. Et par exemple, encore plus loin, donc on peut regarder le fond diffus cosmologique, qui est là une lumière qui a été émise 300 000 ans après le début de l'univers, après le Big Bang, et on constate encore une fois que ça a l'air cohérent avec ce qu'on observe aujourd'hui. Donc les constantes qu'on observe sont en général très constantes, à l'exception par exemple de la constante cosmologique, parce qu'elle a évolué avec le temps, puisque l'expansion de l'univers a accéléré avec le temps, et dans la mesure où aussi on ne sait pas exactement quelle est la nature de cette constante cosmologique, est-ce que c'est vraiment un énergie du vide, est-ce que c'est un problème dans nos lois, dans ce cas-là c'est très difficile de dire que cette constante va rester constante tout le temps dans la mesure où on ne sait pas ce que c'est. Donc maintenant je vais m'intéresser en fait justement à une constante un peu particulière qui sera la masse des protons, du neutron et de l'électron. Alors d'où viennent ces masses? On en a parler un petit peu avant, donc on va plonger dans l'atome, dans les échelles de taille. Donc échelle de taille standard, nous avons ici une magnifique fleur. Vous plongez au micromètre, vous avez un pollen de la fleur. Vous plongez encore, vous avez une molécule du pollen de cette fleur. Vous avez ici, vous zoomez sur un atome de cette molécule, vous avez donc l'atome avec son cortège électronique, et vous zoomez encore, vous avez le noyau de cet atome au cœur du cortège électronique. Alors là, vous voyez qu'on est passé de l'ordre du centimètre à ce qu'on appelle le Fermi, en honneur du physicien Enrico Fermi, qui est 10-15 mètres, c'est-à-dire que c'est un millionième de milliardième de mètre. Mais franchement, à partir de 10-10 à peu près, donc en fait à partir du moment où on va même les molécules et à partir du moment où on va regarder les atomes, clairement on rentre dans le domaine de la mécanique quantique. Et donc il faut être bien conscient que les représentations que vous avez là de la molécule, de l'atome et du noyau, sont à peu près aussi représentatives de ce qui se passe vraiment que la représentation de la fleur. Donc c'est vraiment des images qu'on se raccroche à quelque chose. En pratique, c'est des objets qui sont beaucoup plus étranges et beaucoup plus complexes. Et à l'intérieur de ce noyau, donc, il va y avoir les neutrons, les protons qui vont nous intéresser. Et à l'intérieur de ces protons et des neutrons, qui sont aussi des particules composites, on va avoir les quarks. Donc si je reviens en fait, sur mon modèle de noyau de l'atome, pour que vous ayez un peu certaines conventions en tête, un noyau d'atome est composé de Z protons, Z qui veut dire proton bien sûr, N neutrons et d'un nombre de masse A qui est nombre de neutrons plus nombre de protons. Le nombre de protons, puisqu'un atome est neutre, les protons sont positifs, donc il va y avoir autant d'électrons négatifs dans le cortège électronique que de protons dans le noyau de l'atome. Et en fait, le nombre d'électrons va déterminer les propriétés chimiques. Donc en fait, dans un noyau, le nombre de protons du noyau détermine les propriétés chimiques de l'élément. Et ensuite, vous allez rajouter le nombre de neutrons et le nombre de protons qui, eux, vont vous donner les propriétés nucléaires. Mais a priori, si vous avez un nombre de protons donné, vous changez le nombre de neutrons, donc vous allez toujours avoir le même élément chimique, mais avec différents isotopes. Mais par contre, les propriétés chimiques seront au premier ordre les mêmes. Donc si j'ai cette notation AX, par exemple, si j'ai le carbone 12 écrit 12C comme ça, donc le carbone 12, c'est un noyau composé de 6 protons et de 6 neutrons. Le carbone 14, qui est un isotope donc, du carbone, va avoir toujours 6 protons parce que c'est du carbone et 8 neutrons. Et par exemple, l'uranium 238, lui, va avoir 92 protons parce que c'est de l'uranium et 146 neutrons. Donc mes protons, mes neutrons et mes électrons, comme je vous le disais au départ, sont essentiellement composés uniquement de quarks up, down et d'électrons, vu que toutes les autres particules qui sont plus massives sont instables et vont généralement se désintégrer pour retomber sur ces particules fondamentales. C'est une règle générale de la nature est au régime. C'est-à-dire qu'une petite particule a trop de masse, et si elle peut se désintégrer, et dans ce cas-là, elle va se désintégrer dans une particule qui a moins de masse. Donc, si on zoome un peu sur ces quarks, le quark up va avoir une charge de plus de tiers, une masse de 2 mégaélectronvolts. Alors, le mégaélectronvolt, c'est l'unité un peu qui ressemble à une arme de Goldorak, mais c'est un peu une unité de base en physique nucléaire, parce que ça donne des chiffres raisonnables. On n'est pas à 10 puissance 7000 ou à 0,000. Ça donne des chiffres un peu raisonnables. Donc, le MeV est une bonne unité. D'ailleurs, on verra pourquoi tout à l'heure. Le quark down, lui, a une charge de moins un tiers. Il est un peu plus lourd. Et l'électron, lui, donc, a une charge de moins 1 et une masse de 0,5 MeV. Donc, comme je vous le disais, le proton et le neutron sont des particules composites. C'est-à-dire que, en fait, on peut considérer que le proton et le neutron sont composés de trois quarks de valence. Pour le proton, ça va être deux quarks up et un quark down. Et pour le neutron, un quark up et deux quarks down. Donc, si vous faites le calcul avec les charges plus de tiers, moins un tiers, plus un, le proton a donc une charge positive. Si vous faites le calcul pareil pour le neutron, deux tiers, moins un tiers, moins un tiers, nul, le neutron a donc une charge neutre. Pareil, on fait le calcul avec les masses. Une masse 2,3 plus 2,3 plus 4,5, et nous avons donc la masse du proton qui est de 938 A. Donc là, on a effectivement un petit problème de limite. Et pareil pour le neutron. En fait, c'est que cette vision du neutron et du proton en quark de valence est extrêmement simplifiée. Pour être plus exact, il faudrait imaginer plutôt les protons et les neutrons comme ces choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a en moyenne effectivement trois quarks de valence qui vont pouvoir déterminer certaines propriétés du proton et du neutron. Mais par contre, on a en permanence une mer de gluons. Donc les gluons, c'est les particules vecteurs de l'interaction forte, plus des paires de quarks anti-quarks qui apparaissent et disparaissent dans ce proton et de ce neutron, qui vont en fait faire la majorité de la masse du proton et du neutron. Donc, quand on dit que, par exemple, le boson de Higgs donne la masse à toutes les particules, c'est vrai pour les particules élémentaires. En l'occurrence, ça sera pas vrai pour les protons et les neutrons, puisque selon le mécanisme de Higgs, le gluon ne devrait pas avoir de masse. Donc en fait, c'est vraiment l'énergie apportée par les gluons et par les paires de quarks anti-quarks qui vont créer cette masse du proton et du neutron. Et comme je vous le disais, donc, le neutron est plus lourd que le proton, et donc il va avoir envie de se désintégrer, surtout que c'est deux particules très proches. Et effectivement, le neutron est instable avec un temps de demi-vie d'environ 10 minutes. Le temps de demi-vie, c'est-à-dire que vous prenez 100 neutrons, au bout de 10 minutes, vous aurez statistiquement 50 neutrons désintégrés. Et ainsi de suite, au bout de 20 minutes, vous n'aurez plus qu'un quart des neutrons initiaux. Donc le neutron va se désintégrer et va se transformer en un proton, plus un électron, plus un antineutrino. Les neutrinos reviennent à la charge. Pour avoir la conservation de l'énergie, et sachant que l'énergie et la masse sont équivalentes, il faudra dans n'importe quel type de désintégration de ce genre, que la masse de la particule initiale soit au moins égale, voire supérieure, à la masse des particules produites. Donc ici, on l'a vu, le neutron a une masse de 939,6, plus celle du proton, l'électron 511 keV, c'est tout petit, et la masse du neutrino, alors le neutrino a une masse, mais c'est vraiment histoire de dire qu'on a une masse, quoi, parce que c'est une masse vraiment ridicule par rapport aux autres particules élémentaires. Mais on voit bien que donc, la masse du neutron est supérieure à la masse du proton et de l'électron, donc la désintégration peut se faire. Il faut quand même assurer un semblant d'ordre. Et donc, il y a quand même certaines grandeurs qui sont nécessaires dans toute réaction nucléaire. Ça sera par exemple la conservation de la charge électrique. Donc, si votre neutron est neutre au départ, votre proton est positif. Donc, il va y avoir un électron négatif. Donc, vous aurez plus 1, moins 1. On aura bien une charge neutre à la fin. Vous allez avoir besoin de la conservation du nombre leptonique. Donc, les leptons, c'était l'électron et ses grands frères plus les neutrinos. Donc pareil, là vous avez un électron qui crée, et donc qui est un lepton, donc il vous faut un antilepton, et donc on a bien cet antineutrino électronique qui est émis, et vous devez avoir conservation du nombre baryonique, c'est-à-dire le nombre de quarks, grosso modo. Mais là, tout va bien. Il y avait 3 quarks dans le neutron, et il y a 3 quarks dans le proton. Ce n'est pas les mêmes, mais c'est juste le nombre qui compte, là. Donc, le neutron est instable, et ça se confirme expérimentalement. Mais malgré tout, il existe des neutrons dans les noyaux. On est bien d'accord. Carbone 12, par exemple, 6 protons, 6 neutrons. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, regardons le carbone 12, justement. Lui, il est stable, et on calcule sa masse en faisant... on mesure sa masse, même si on veut. On a 11 000 MeV, à peu près. Et regardons le noyau qui est juste à côté, d'azote 12, qui a 7 protons et 5 neutrons. Donc, tout à l'heure, on se disait, les neutrons se transforment en protons. Donc, c'était une bonne idée. On aurait pu se dire qu'un des neutrons du carbone 12 allait se transformer en proton pour faire de l'azote 12. Mais non, pas du tout. C'est l'inverse, en fait. C'est l'azote 12 qui est instable. Et pourquoi ? C'est parce que quand on fait le calcul de la masse de l'azote 12, on voit qu'en fait, la masse de l'azote 12 est supérieure à la masse du carbone 12, et donc que la désintégration va se faire dans l'autre sens. Et qu'est-ce qu'on observe, en fait ? On observe une désintégration symétrique, où là, c'est un proton à l'intérieur de l'azote qui va se transformer en donnant un neutron dans le carbone, plus cette fois-ci, alors non plus un électron, mais un positron, puisque là, c'est un proton qui s'est transformé en neutron, il faut une conservation de la charge électrique. Et comme le positron est une particule d'antimatière, en fait, le positron, c'est l'anti-électron, eh ben, il nous faut un lepton pour compenser, donc un neutrino électronique. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, la désintégration bêta plus. Et si on regarde le noyau qui est de l'autre côté, ce qu'on appelle un noyau miroir, d'ailleurs, qui a 5 protons et 7 neutrons, ben, lui, il est aussi instable. On calcule sa masse, elle est effectivement de 11 189, donc toujours supérieure à celle du carbone 12. Et là, on retrouve effectivement notre désintégration du neutron qu'on avait vu lorsque le neutron était tout seul. C'est-à-dire qu'on a un neutron qui se transforme en proton, plus l'électron, plus l'antineutrino. Donc on a, dans ce cas-là, une désintégration bêta moins. Donc la masse du plus faible du carbone 12 fait que le carbone 12 est plus stable que ses noyaux voisins. Et donc, il peut y avoir des intégrations soit du bor 12, soit de l'azote 12, pour donner du carbone 12. Et c'est ce qui va faire que dans notre environnement, certains isotopes seront présents et pas d'autres. Certains seront stables et d'autres pourront se désintégrer et au final arriver à un isotope stable. Et donc, le truc là-dedans, c'est qu'effectivement, en fait, la masse du noyau n'est pas la masse de ses constituants. En fait, la masse d'un noyau, c'est la masse des protons plus la masse des neutrons moins l'énergie de liaison. Donc, si vous avez une énergie de liaison très forte, eh bien, votre noyau a une masse plus petite et donc il sera moins susceptible de se désintégrer. Il est plus stable. Et en gros, donc, l'énergie de liaison d'un nucléon, donc on peut parler des MeV tout à l'heure, l'énergie de liaison d'un nucléon, que ce soit un proton ou un neutron autour de ces noyaux stables, hein, est d'à peu près 10 mégaélectronvolts, donc 10 MeV. Donc, c'est un ordre de grandeur à garder en tête pour la suite. Donc, maintenant, voilà, ce que ça donne avec les règles d'aujourd'hui, c'est que vous allez avoir en fait la table des noyaux. Donc vous avez en direction verticale, chaque ligne correspond à un nombre de protons défini, donc à un élément donné. Avec le plus léger, comme je vous disais, l'hydrogène, un seul proton. L'élément lourd le plus stable, le plomb, 82 protons. Plus haut, par exemple, l'uranium. Aujourd'hui, le noyau le plus lourd qu'on ait jamais fait en accélérateur, c'est l'oganesson, qui a 118 protons. Mais c'est un noyau qu'on a créé artificiellement dans une expérience. Et on voit ici, en rouge et en bleu, les noyaux qui vont se désintégrer en bêta plus ou bêta moins. C'est-à-dire que les noyaux rouges vont avoir tendance à... C'est des noyaux qui ont quelque part trop de protons par rapport à la stabilité. Donc les protons vont se transformer en neutrons. Et au final, on va retomber sur notre vallée de stabilité, qui est en fait l'ensemble des noyaux en noir, là, que vous voyez. Et inversement, de l'autre côté, on aura les noyaux trop riches en neutrons. Donc les neutrons se transformeront en protons pour rejoindre, encore une fois, la vallée de stabilité. Mais maintenant, jouons un peu avec la réalité. Donc on prend la pierre de réalité, bien sûr, qui est la jaune. Inversons les masses, déjà. Bon, dans la règle habituelle, mon neutron se transforme en proton. Donc comme on l'a vu, si on intervertit la masse du proton et du neutron, bah, notre proton va pouvoir se transformer spontanément en neutron, plus positron, plus neutrino. Alors là, on va avoir un problème, puisque quand même, l'essentiel de la masse qu'on a autour de nous est quand même composé, je vous le disais, hein, 98% des atomes de l'univers sont des protons. S'il n'y a plus de protons, il n'y a plus tellement de matière, plus d'hydrogène. Alors, est-ce que toute la matière se transformerait vraiment en neutronium ? Pas forcément, je vous l'ai dit, puisque, en fait, toute l'énergie de liaison des noyaux pourrait stabiliser certains noyaux, par exemple, le deuton, qui est un autre isotope de l'hydrogène. Donc vous avez l'hydrogène, c'est un seul proton. Si vous ajoutez un neutron, ça vous fait un noyau de deuton, donc qui lui a une énergie de liaison plus forte qui permettrait de le stabiliser vis-à-vis de ce problème. Par contre, le processus de fusion dans les étoiles pourrait être extrêmement problématique. Maintenant, on va jouer avec un autre paramètre, cette fois-ci. Donc on garde toujours notre réaction de désintégration du neutron, mais on va jouer avec l'électron. On a vu que, étant donné la différence de masse entre le neutron et le proton, on peut créer l'électron sans problème. Maintenant, si je passe un électron à 2 MeV, c'est-à-dire que la masse de mon électron va être supérieure à la masse du neutron moins la masse du proton, là, je manque d'énergie pour transformer mon neutron en proton plus électron. La désintégration du neutron n'est plus possible et le neutron est stable. Alors là, on est bien embêté. Bon, après... Comme on l'a vu, la différence d'énergie dans les noyaux est toujours plus importante, 10 MeV. Donc on aura toujours possibilité d'avoir des intégrations bêta dans les noyaux. Donc il y aura peut-être plus de neutrons au départ, au moment de la création des neutrons et des protons un peu après le Big Bang. Par contre, on va avoir un réarrangement de ces protons et de ces neutrons dans la vallée de stabilité si on considère que l'ensemble des autres règles de la physique nucléaire sont respectées. Par contre, si on prend un électron de 100 MeV, par exemple, là je mets le paquet quoi, carrément, les désintégrations bêta sont même plus possibles. Parce que là, on gagnait 10 MeV à cause de l'énergie de liaison des noyaux. Mais là, il va falloir créer un électron qui est 100 MeV, donc beaucoup plus que ce que vous pouvez gagner en passant d'un noyau instable à un noyau stable. Et donc là, même la désintégration bêta ne sera plus possible. Et donc on aura une sorte d'univers figé, où on aura les neutrons d'un côté et les protons de l'autre. Alors, ils pourront toujours se combiner avec ensemble pour former des noyaux. Mais alors, par contre, là, vous n'aurez plus du tout cette image de vallée de stabilité, puisque en fait, les protons et les neutrons sont aussi stables l'un que l'autre. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors maintenant, on a toujours notre électron très très lourd, et on va regarder ce qui se passe là au niveau, non plus au niveau du noyau de l'atome, mais au niveau de l'atome lui-même. Par exemple, l'atome d'hydrogène. Donc, vous avez ici un atome d'hydrogène typique, hein, et on a le rayon caractéristique de, disons, la distance moyenne, ou disons, plutôt la taille caractéristique de l'extension spatiale de l'électron autour du proton, c'est-à-dire du noyau d'atome d'hydrogène, qui est donnée par le rayon de bord, donc qui est à peu près 5·10−11 mètres. Ça rejoint un peu les 10−10 mètres dont je vous parlais tout à l'heure. Alors c'est une constante, en fait c'est une combinaison de différentes constantes, où on retrouve notre constante de Planck H, on retrouve pi, parce qu'il faut toujours mettre pi quelque part, et surtout on retrouve en dessous notre masse de l'électron. Et donc si on a augmenté notre masse de l'électron d'un facteur 200, et bien dans ce cas-là, notre rayon de bord va diminuer d'un facteur 200. C'est-à-dire que donc R va devenir 200 fois plus petit, et donc notre masse, elle va devenir 200 fois au cube plus petit, donc 8 millions de fois plus dense. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a des électrons lourds autour d'un noyau ? Parce que justement, l'électron s'est rapproché du noyau. Alors là, il y a des études qui ont été faites. Par exemple, pour un atome de plomb, donc vous voyez, la courbe en pointillé, c'est la courbe de l'électron normal, avec la masse normale. Donc vous voyez qu'elle s'étend très très loin du noyau de l'atome. Hein. Le noyau de l'atome est tout petit, il fait de l'ordre de 1 Fermi. Donc là, on est des échelles, vous voyez, de 500, 600, 700 Fermi. Par contre, si on regarde des électrons lourds, eux, toute leur probabilité de présence, leur densité va être concentrée vers le noyau de l'atome. Et même si on regarde vraiment, on fait un zoom sur la partie entre 0 et 50 Fermi, vous avez en pointillé cette fois-ci la densité de l'atome, enfin du noyau de l'atome de plomb, et vous avez les électrons lourds, la densité des électrons lourds qui sont tout près de cet atome. Et vous voyez même que certains électrons lourds vont complètement interpénétrer le noyau de l'atome. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Paf ! Capture électronique. Capture électronique, en fait, c'est un proton qui, dans le noyau, va capter un électron pour se transformer en neutron. Donc là, encore une fois, notre électron est tellement lourd qu'il se rapproche du noyau de l'atome, et on a dans ce cas-là fusion, enfin une sorte de capture, de fusion entre le proton et l'électron qui va se transformer en neutron. Et donc là, on part direct sur le neutronium. Dans l'exemple, dans cet exemple, on transformerait notre plomb 208 en thallium 208. Le thallium 208, là, a 81 neutrons. Mais ça continuerait comme ça. Tant qu'on a des électrons autour du noyau de l'atome, on va continuer à neutroniser notre matière pour avoir enfin du neutronium uniquement. Du neutronium, c'est-à-dire une matière composée uniquement de neutrons. Alors, on n'a pas toujours besoin d'électrons lourds. En fait, cette capture électronique existe vraiment. Dans certains noyaux qui, eux, sont extrêmement lourds, ce qui fait que l'énergie de liaison des électrons est très proche. C'est ce qu'on appelle la conversion interne, où donc certains électrons du cortège électronique sont capturés par le noyau. Donc c'est un phénomène qui existe vraiment, on n'a même pas besoin de s'amuser avec la masse de l'électron pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe pour les noyaux légers pendant ce temps-là? Parce que là, on avait quand même un noyau de plomb, c'est quand même très très lourd. Hein. Pour les noyaux légers, donc on a toujours notre rayon de bord qui est réduit d'un facteur 200, et donc les distances interatomiques vont être réduites, pareil, d'un facteur 200. C'est-à-dire que si j'ai une molécule hydrogène-deutérium, donc c'est le deutérium dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le noyau de l'hydrogène avec un neutron en plus, donc peut former une molécule, alors la molécule standard d'hydrogène c'est H2, on peut former des molécules HD, puisque les propriétés chimiques ne dépendent pas de l'isotope. Donc on a une belle molécule H2, mais dans laquelle notre électron est 200 fois plus lourd. Donc les distances entre l'hydrogène et le deutérium sont réduites d'un facteur 200. Et donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce cas-là? Les noyaux sont tellement proches qu'on peut avoir fusion nucléaire spontanée de nos deux noyaux, donc hydrogène et deutérium, pour former un nouveau noyau d'hélium-3. Donc en fait, cette molécule proton électron deutérium s'est transformé en hélium-3 plus électron plus de l'énergie. Et donc là, vous avez un truc formidable, c'est de la fusion nucléaire à température ambiante. Bon, il faut juste avoir un électron qui fait 100 MeV. Donc, mais vous allez me dire, le muon qu'on a vu tout à l'heure dans le modèle standard, le grand frère de l'électron, c'est justement un électron, il a presque les mêmes propriétés que l'électron, mais il fait 105 MeV. Coïncidence, je ne crois pas. Donc c'est notre muon du modèle standard. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, on peut faire des atomes muoniques. On est capable de créer des muons. En fait, en ce moment même, vous êtes tous bombardés par des muons qui viennent des rayons cosmiques, à peu près 100 000 particules par heure. Donc vous aurez pris 100 000 muons dans la tête pendant le temps de ma conférence. Mais ce n'est pas grave. Donc on peut faire des atomes muoniques parce que justement, les muons se comportent comme des électrons. Donc paf, on a notre molécule d'hydrogène, notre molécule de deutérium. On fait une molécule H mu D, et comme tout à l'heure avec notre électron supermassif, et ben paf, on a fusion des deux noyaux avec production d'un noyau d'hélium 3 et toujours notre muon qui est là. Et donc ça c'est formidable parce que c'est en fait ça va créer en plus de l'énergie, donc ça sera de la fusion catalysée par muon. Et en fait c'est possible, ça a déjà été fait, c'est de la vraie fusion froide pour le coup, parce que là vous n'avez vraiment pas besoin de chauffer votre matériau. Si vous prenez une molécule HD standard avec nos électrons trop trop légers là. Dans ce cas-là, il faut la chauffer et par exemple, on va la comprimer avec des champs magnétiques. Là, même pas besoin, à température ambiante, si vous mettez un muon dans la bataille, hop, vos noyaux se rapprochent et vous avez fusion spontanée. Le problème, c'est que forcément, ça serait trop simple, c'est que le muon est instable. Il a un temps de vie d'à peu près 2 microsecondes, donc bon, faut faire les réactions, mais assez rapidement quand même. L'autre gros problème, c'est qu'il peut être capturé par notre hélium 3 qui a été créé. Et comme l'hélium, c'est un élément chimiquement passif, le muon ne va pas pouvoir resservir dans notre mélange à faire d'autres fusions catalysées. Et donc, on perd le muon. Et puis, en plus, le problème du muon, c'est que c'est une particule qu'on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et puis, bon, les muons cosmiques, ils arrivent quand même un peu n'importe où. Et donc, il faut beaucoup d'énergie pour le créer. Et aujourd'hui, donc, on a réussi en accélérateur à faire cette fusion catalysée par le muon, mais ce n'est pas énergétiquement rentable. Donc enfin, pour conclure, donc où on en était déjà? Donc si je reprends un peu ce qu'on a décrit dans nos échelles de masse entre le muon, l'électron, le proton et le neutron, on peut dire grosso modo que si la masse de l'électron est entre 0 et 1,3 MeV, qui est la différence entre la masse du neutron et la masse du proton, tout se passe à peu près comme chez nous. Par contre, si on passe à une masse d'électrons plus forte, donc le neutron devient stable, la désintégration bêta n'est plus possible que dans les noyaux. Alors, malgré tout, on a vu que peut-être qu'on peut tenter le coup pour avoir un univers qui ressemble un peu au nôtre. Par contre, là, si on passe à un électron encore plus lourd, là, on va avoir justement cette fusion spontanée de protons et d'électrons pour les atomes lourds, de fusion aussi à température ambiante pour les atomes légers, et on part là directement vers. On va transformer tous nos protons en fait en neutrons et donc aboutir à du neutronium partout, ce qui n'est pas très favorable à la vie. Donc, ce qui est clair, c'est que nous sommes faits pour l'univers, mais l'univers est-il fait pour nous ? En fait, c'est une discussion qui a lieu depuis de nombreuses décennies. En fait, c'est que on peut penser que, on a vu là, par exemple, la masse de l'électron. Si on change un peu trop la masse de l'électron, on va avoir un univers qui n'est plus possible. Si on change le rapport entre la force de gravitation et la force électromagnétique, on va avoir toutes les étoiles qui se transforment en trous noirs. Change un peu les règles de la chimie, par exemple, est-ce qu'on va toujours avoir des molécules d'eau qui permettent de créer la vie, et, en tout cas la vie telle que nous la connaissons ? C'est une question qui est ouverte. Et certaines personnes pensent qu'en fait, il y a une sorte d'ajustement fin des constantes fondamentales de l'univers pour l'apparition de la vie humaine. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les constantes auraient été ajustées à la main par quelqu'un, qu'il se dénonce, pour que la vie soit possible, et essentiellement la vie humaine, et essentiellement d'ailleurs ma propre existence, je suis très content, pour la vie humaine, et donc il y aurait en fait une sorte de design intelligent, n'est-ce pas, pour prendre des gros mots, qui ferait que la vie humaine est apparue. Alors, c'est vrai que si vous changez un seul paramètre, et que vous gardez tous les autres constants, vous risquez très vite d'aller dans les choux. Le problème, c'est qu'en fait, ces paramètres, c'est... ce qu'on a vu, dans notre cas par exemple, ces paramètres, parfois on dit « il suffit de changer de 10-36 telle variable pour détruire toute la vie dans l'univers ». Dans notre exemple, on voit qu'on a un petit peu de marge quand même pour l'électron. Ce n'est pas comme s'il faut quand même le passer à 100 MeV ou au moins plus de 10 MeV pour détruire toute possibilité de noyau. Donc il y a toujours une plage de possibilités pour faire varier les paramètres. Les masses, la masse de l'électron, du proton et du neutron ne sont pas indépendantes entre elles, puisqu'en fait, elles viennent toutes du mécanisme de Higgs pour le quark up et le quark down qui forment les électrons. Donc, on ne peut pas juste changer la masse de l'électron et estimer que tout le reste va rester pareil de la même façon. Donc, en fait, non seulement il existe une plage de possibilités pour faire varier un paramètre, mais si vous prenez un système avec deux paramètres que vous faites évoluer, trois paramètres que vous faites évoluer ensemble, en fait, on se rend compte, il y a des gens qui ont fait des études, par exemple, systématiques sur les masses des quarks, on se rend compte qu'il y a tout un tas, une gamme de valeurs de masse des quarks qui permettent de développer une vie, enfin, en tout cas, de développer des noyaux lourds qui peuvent amener à la vie. En plus, on a parlé de constantes fondamentales. Clairement, ce qu'on a vu là, c'est que les masses ne sont pas des constantes fondamentales, puisque le modèle standard de la physique des particules, aujourd'hui, il est encore incomplet. Donc, c'est essentiellement des constantes qui viennent de notre propre vision, de notre propre représentation de l'univers. Donc, quelque part, que ça soit ajusté, oui, forcément, puisque c'est nous qui les avons mesurées. Et ensuite, on pourrait estimer, est-ce qu'il y a d'autres univers où ces masses seraient différentes ? Il y a effectivement aujourd'hui des théories qui commencent à apparaître sur la possibilité de multivers, où là, par contre, chaque univers aurait son propre jeu de constantes. Il y a certains univers où il n'y aurait que des trous noirs, d'autres univers où il n'y aurait que du neutronium, et dans notre univers, de fait, il y aurait nous. Et également, souvent, on prend en considération l'évolution de ces constantes à l'aune de l'apparition de la vie telle que nous, on la connaît. Est-ce que cette forme de vie est vraiment unique ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de vie qui seraient possibles dans d'autres univers ou peut-être même dans le nôtre ? Donc, c'est des questions qui, à mon avis, ouvrent beaucoup plus le débat que d'imposer une main invisible du marché qui aurait réglé les constantes fondamentales pour que nous, spécialement, et moi surtout, soyons aujourd'hui sur Terre. Merci. Vous avez des questions ? Oui, il y a une question là. Oui, complètement. Ce que certaines études ont montré, par exemple, c'est que par exemple, si on change la masse du neutron, par exemple, et qu'on est capable de changer, enfin, la masse du neutron, de toute façon, va changer également, et qu'en fait, il va y avoir toute une gamme de rapports masse du neutron, masse du proton corrélés, qui feront que, au final, on aura à peu près les mêmes lois que dans notre univers. Donc, effectivement, comme les grandeurs sont corrélées. C'est toujours possible de, enfin pas toujours, mais c'est souvent possible de rattraper une variation de constante par une autre. Il y a une question là-bas.
Il y a des gens qui n'ont pas entendu la question précédente. Au niveau des. De retomber sur nos pattes en modifiant une constante, mais en les modifiant toutes les autres en triturant les équations. Notamment, on a parlé par exemple de la masse de l'électron. Je me demandais, est-ce qu'on pourrait essayer d'augmenter la vitesse de la lumière, changer un petit peu les équations pour nous permettre de voyager plus vite que la vitesse actuelle de la lumière ? Ce serait marrant, par exemple, dans un univers de...
Alors, en fait, non.
Non.
Parce que du coup, là, on a un problème de masse. C'est que en fait la masse et enfin si on a vu donc déjà la vitesse de la lumière c'était une vitesse de la causalité donc c'est vraiment un principe extrêmement balèze pour remettre en cause le fait que une cause peut arriver après sa conséquence c'est audacieux et en plus donc les particules qui vont aller à cette vitesse de causalité sera les particules sans masse. Alors après on peut imaginer par contre d'autres particules par exemple les tachyons qui ont des masses imaginaires qui eux pourraient aller plus vite que la lumière mais on n'en a jamais vu hein. Monsieur, il y a une question aussi.
Je vais le faire passer là-bas. Je vais le faire passer.
Oui, bonjour. Lorsque le cyclotron a été mis en fonctionnement, certains pensaient que ça allait créer un trou noir qui allait engloutir le monde tel que nous le connaissons. Est-ce que la modification même modique d'un des éléments fondamentaux pourrait entraîner ce genre de catastrophe ?
Bon, ça serait très difficile à mon avis. Alors, il y a déjà une chose, c'est que le CERN aujourd'hui, le LHC, c'est l'accélérateur qui porte les particules des protons à l'énergie la plus haute qu'on connaisse aujourd'hui. Donc c'est tera electronvolt, c'est-à-dire qu'on est à 1 million de MeV par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Mais le truc, c'est qu'un proton à 12 tera electronvolt a l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie de mouvement, d'un moustique en plein vol. Vous voyez que globalement, même si on atteint des énergies, des densités d'énergie extrêmement importantes, globalement, les énergies mises en jeu sont quand même assez grotesques. Donc, en fait, le fait d'avoir des trous noirs qui se créent à la suite de ces collisions de particules était un peu, très largement surestimé. C'était plus du domaine du fantasme qu'autre chose. Alors après, est-ce qu'on pourrait imaginer, on pourrait imaginer par exemple un changement drastique de certaines constantes. Le rayon de Schwarzschild, par exemple, qui est le rayon qui détermine si vous avez une masse donnée, si cette masse est concentrée en dessous du rayon de Schwarzschild. Dans ce cas-là, vous avez création de trous noirs. Un trou noir, en fait, c'est un objet pas forcément très massif, mais c'est un objet extrêmement dense. Il peut y avoir des micro-trous noirs. Mais donc, on imagine changer certaines constantes, par exemple la constante de la gravitation ou je ne sais pas quoi, ou pour réduire ce rayon de Schwarzschild à une distance ridicule. Et dans ce cas-là, vous auriez effectivement peut-être des effets très, très bizarres, où on pourrait combiner comme ça relativité générale et physique des particules. Mais alors là, ça rejoint un des problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ces théories sont assez incompatibles. Donc, qu'est-ce qui se passerait vraiment aujourd'hui ? Ce serait difficile à prévoir. Ah, on arrête. Ah, je suis désolé, on est obligé d'arrêter. Ah oui, 29. Désolé. Enfin, je suis disponible si jamais vous avez des questions. Merci beaucoup, en tout cas.